so we're gonna get started now, so if everyone can take their seats.
Nous allons commencer, si vous voulez bien vous asseoir, terminer les conversations, ce serait très sympathique.
Okay, welcome. Thank you, everybody.
Bienvenue, merci à tous. Vous êtes à la séance sur l'évaluation des priorités de la communauté et les enchères sur le nouveau GTLD. Donc, si vous n'êtes pas là pour ça, vous pouvez sortir. Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît, commencer? Merci. Je suis Russ Weinstein, je suis responsable du programme GTLD et comme je le disais, donc évaluation des priorités de la communauté et les enchères pour les nouveaux GTLD sont le sujet pour Larry Alzabel qui est à côté de moi pour les enchères et Steve Jane qui s'occupe des opérations, de la gestion des opérations des GTLD. Donc, l'ordre du jour pour la réunion, c'est de vous donner déjà une présentation de ce que nous avons fait en termes de résolution. De contention, nous allons parler des CPE et ensuite nous ouvrirons le micro pour des questions-réponses sur les CPE. Ensuite, nous passerons aux enchères pour les nouveaux GTLD et je vous parlerai du statut, du processus et ensuite je passerai la parole à Larry avec une simulation du système sur les enchères. Et nous parlerons des sujets dont on a parlé lors du webinaire il y a quelques jours et ensuite des questions d'ordre général, questions-réponses d'ordre général. Donc, le statut en termes de résolution des contentions, vous voyez les chiffres à gauche qui représentent les chiffres d'origine. Après le panel, l'évaluation par le panel, donc nous avons 234 ensembles de contentions avec actuellement 201 ensembles de contentions avec 657 demandes en contention, sans compter les déterminations. Nous avons nommé une unité d'intelligence ou de renseignement économique, EIU, qui représente le panel CPE. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous avons donc les enchères, un fournisseur qui s'appelle Power Auctions LLC. C'est en fait la méthode de dernier recours pour résoudre les litiges parce que la première chose, c'est bien sûr que vous résolviez vos problèmes par vous-même. Ensuite, je passe la parole à Steve. Merci, Russ. Donc, comme Russ l'a dit, le CPE est bien parti et il a été lancé le 24 octobre. Il y a des évaluations qui prendront... Le processus d'évaluation, pardon, devrait prendre environ 2 à 3 mois avec des résultats publiés sur le site CDE. En termes de pipeline, nous avons 2 qui sont en cours d'évaluation, 2 qui sont invités et 28 qui ne sont pas encore éligibles pour l'invitation. Pour ce qui est de l'invitation, nous nous attendons à ce que les CQ soient envoyés mi-décembre et on devrait voir des résultats d'ici janvier 2014. Donc, pour ce qui est des 28 demandes de communauté, donc elles seront invitées de manière hebdomadaire. Il y aura une mise à jour du microsite CPE avec les invitations, les nouvelles invitations, les nouvelles élections, et vous pourrez vous y rendre pour savoir quelles sont les dernières mises à jour. J'aimerais rappeler quels sont les critères d'éligibilité pour les invitations. La communauté doit être désignée par elle-même selon la section 1.2.3. Il doit y avoir une contention active. Ils ne doivent pas non plus être dans la période des 30 jours. Tous les membres de cet ensemble doivent également avoir rempli une évaluation, ne pas avoir d'objection en attente, ne pas avoir d'avis GAC en attente également, et ne pas être classifié comme à haut risque dans le cadre du plan de gestion des collisions de noms. Ensuite, en termes de processus, j'aimerais parler de l'invitation, du processus de notification d'invitation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous inviterons les demandes éligibles, les candidatures éligibles toutes les semaines. Il y aura 21 jours de disponibles pour être choisis et pour payer la somme de 20 000 $. En même temps, nous allons notifier tous les membres de l'ensemble de contention qui auront été invités. Et ce que nous ferons également en même temps, c'est que nous mettrons à jour le microsite CPE pour ce qui concerne la date d'invitation. Ce qui est important, c'est que les commentaires de candidature devra être reçu 14 jours après la date de l'invitation. Alors ensuite, pour ce qui est de l'ampleur de l'invitation, tous les éléments publics de la candidature seront passés en revue. Il y aura également les commentaires qui seront revus, les lettres de soutien, les oppositions, ainsi que les déterminations ou les objections seront analysées. Donc, pour ce qui est du processus Sécu, un des efforts qui a été mis en œuvre, c'est de valider les lettres de soutien. Donc, cela est quelque chose que le panel fera de manière proactive. Je sais qu'il y a eu un petit peu de confusion là-dessus. Les contacts ne vont pas nécessairement s'adresser au panel. C'est le panel qui va s'adresser à eux. Le contact, s'il ne répond pas, une des choses que nous allons faire, c'est que le panel va s'adresser au candidat et il y aura coordination et on va espérer que le contact répondra ou réagira. Dans le contexte des Sécu, le candidat aura l'opportunité de répondre dans l'éventualité où il y ait commentaire. Où il y a objection, il y aura donc un impact sur le score. Donc, nous avions une correspondance. En fait, la correspondance n'est pas un moyen de communiquer d'un camp à l'autre, mais c'est un moyen de fournir des commentaires. Si un candidat En fait, le candidat pourra répondre en cas d'impact sur le score. Également, le candidat pourra clarifier les réponses à sa candidature. En termes de calendrier, c'est à peu près un mois pour le processus d'évaluation. Et puis, il y aura également réponse au Sécu dans les 20 jours. Les 28 jours, pardon. Donc voilà le calendrier que vous avez sur le microsite CPE. Vous avez un petit peu un survol du processus d'évaluation qui est conforme à ce que je disais. Donc les 21 jours pour l'élection et le paiement, les 14 jours pour les commentaires et la correspondance et donc environ un mois pour l'évaluation. Et si Il y a des questions de clarification qui sont émises. Il y a un mois pour obtenir la réponse et enfin un mois pour la finalisation et la publication des résultats. Donc au total, environ 2 à 3 mois pour ce qui est de l'évaluation et de la publication des résultats. Donc voilà pour mes diapositives. Je vais maintenant passer la parole aux personnes qui souhaitent poser des questions. Y a-t-il des questions sur les CPE? Si oui, n'hésitez pas à poser votre question au micro. Andrew Meru, bonjour. Rapidement, en termes de clarification des candidatures d'origine, est-ce que ce sera quelque chose qui sera public? Et là, je pose la question en ce qui concerne les réponses. Non, ce ne sera pas quelque chose qui sera publié. Donc, Andrew au micro, il semble que cela représente un gros changement. Steve au micro, comme je l'ai indiqué dans la diapositive, il n'y aura pas de changement en termes de la candidature. C'est vraiment plutôt la clarification. Urs Iris de Intonix, je suis candidat pour Intonix. Il y a une contention avec des candidatures. Alors, ma question est relative à la notification. Est-ce qu'il y aura une lettre? Est-ce qu'il y aura des notifications qui seront faites de manière électronique? Réponse de Steve. La notification dans l'ensemble de contentions sera communiquée par le portail du client. Donc la communication sera électronique. Alors, commentaire maintenant de la personne au micro. Les commentaires doivent être de forme électronique. Alors, est-ce que n'importe qui peut faire un commentaire ou est-ce qu'il faut y avoir un lien avec la candidature? Est-ce que les commentaires doivent contenir des preuves ou un soutien pour souligner la question ou ce qu'on peut simplement commenter? Steve au micro. Alors, pour clarifier, c'est plus une question de date butoir. On peut toujours faire des commentaires sur les candidatures. Simplement, c'est une question de date butoir pour que le panel sache ce qu'il faut considérer. Pour ce qui est de qui a le droit de faire des commentaires, non, il n'est pas nécessaire d'avoir un lien avec le candidat. Vous pouvez faire vos commentaires. C'est tout à fait ouvert. Donc, commentaire au micro. Personne au micro. Donc, si je comprends bien, si on fait beaucoup de commentaires, le panel va passer en revue les informations dans plus de détails. Steve au micro. Alors, le panel va déterminer ce qui est pertinent, ce qui doit être pris en compte, ce qui peut avoir un impact sur le score. Parfait. Merci.
Je m'appelle Stéphane Lingler. Je suis aussi de Internet Links. Je veux savoir quelle est l'autorité finale qui définit l'évaluation de la communauté et pour voir qui fait l'évaluation, disons. Nous, Steve Schenck, nous, la responsabilité est sur l'unité intelligence économique. C'est qui est le panel CPE. Ils vont suivre le guide, le manuel, et nous avons aussi des réglementations qui sont en place. Et c'est comme ça que nous ferons l'évaluation. Donc la personne au micro. Donc la décision sera finale et légale. Russ Weinstein, oui, c'est exactement, c'est comme toutes les recommandations qui sont prises par la CAN, l'évaluation sera faite de façon similaire. Personne au micro, oui, la présentation sera faite vis-à-vis d'ICANN et ICANN va prendre la décision. Russ Weinstein, oui, les résultats seront présentés à ICANN, la rationale sera présentée à ICANN. Et ICANN prendra la décision en prenant en considération les statuts en place et le AGB. Et donc ICANN Si nous pensons, si le panel pense que le travail est fait avec due diligence, nous publierons donc les résultats. Donc la personne au micro, vous allez le faire ou l'évaluateur va être celui qui aura la décision finale, qui prendra la décision finale? Monsieur Ross Weinstein, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dan, du service juridique à Cannes, je voulais rappeler tout le monde que les informations sont un peu générales. On est là pour répondre aux questions. Et la réponse finale qui sera juridique, vous pouvez aller lire le manuel. Tout cela est dans les statuts. Nous essayons de vous donner maintenant des informations générales. Vous prenez référence du manuel si vous avez besoin de plus de détails. Nous ne sommes pas là pour cross-examiner les gens du panel et pour chercher des petits détails. Si vous avez des questions comme celle-là, allez vers le service client. Et je vous encourage d'aller vers ce portail service client et nous pouvons de cette façon répondre. Nous ne voulons pas tirer les mots qu'il a utilisés aujourd'hui et ensuite dire « Ah, Buenos Aires, Monsieur Intel a dit telle chose » et utiliser exactement les paroles qu'il a utilisées. Ici, nous sommes là pour vous donner des informations de façon plus générale. Merci. Salanieta au micro. Je suis de la LAC. Ma question, c'est une question personnelle. Je ne parle pas en référence de la part de la LAC. Nous avons soumis des contributions quand nous avons mis en place les statuts. Nous sommes heureux que vous ayez clarifié les choses, mais j'ai une question en considération de ce que vous avez mentionné lorsqu'il s'agit des disputes, un litige final et donc le système des enchères. Je fais référence par exemple à un exemple où quand je vois que les unités constitutives, j'utilise ce mot, je ne réfère pas des unités constitutives dans l'ICANN, mais dans les communautés en externe de ICANN qui pourraient être affectées. Et donc, ma question est là. A, est-ce que le contexte d'annonce serait dans la perspective de la publication sur le site ICANN? Je pense qu'il y a d'autres processus qui sont tenus en compte. Mais dans le cas où s'il pourrait y avoir, dans le cas où il y aurait des communautés qui ne seront pas forcément sur le radar, qui seraient donc affectées, est-ce qu'elles n'auraient pas la capacité de s'engager dans les enchères? Je sais que ce n'est pas ça ne peut pas être résolu par le panel du CPE, mais vous pouvez peut-être vous renseigner. J'aimerais savoir maintenant et si vous pourriez au moins m'envoyer l'information plus tard ou m'envoyer sur le lien sur lequel je pourrais aller voir et donc avoir la réponse à ma question. C'est la communauté at large est très concernée par ce sujet, surtout lorsqu'il s'agit de cette chronologie. Merci. Ross Weinstein, merci pour cette question. Seulement les candidats des nouveaux GTLD qui sont dans l'ensemble de contention pourront participer aux enchères de cet ensemble. Les autres communautés ne vont pas pouvoir participer à ces enchères si le cas est au cas où elle prendra place. Il faudrait donc aller vers le manuel et les pages de CPE qui seront concernées sur le site qui doivent être disponibles pour votre consultation. Alors, d'une question à distance, quel est le mécanisme pour faire la révision d'une recommandation d'une EU spécifique? Christine Ouellet, au micro. Je vais répondre. Alors, comme pour toutes les déterminations dans la CAN, prises par la CAN, pas seulement pour les candidats, mais pour d'autres. Les candidats et les communautés ont des mécanismes pour suivre, pour traiter de cela. Ils ont des ombudsman, ils ont les RIP et IRP. Toutes ces dispositions sont mises en place pour faire le travail sur tout ce qui est GTLD et pour tous les aspects, avec tous les autres aspects de l'ICANN. Oui, c'est Jonas. Je voudrais savoir si il y a une lettre de support pour additionnelle pour la communauté dans le cas où on aurait besoin de plus de soutien, donc autre que le portail de service client. Je voudrais savoir ce qui a été fait à ce sujet. Il y a deux mécanismes en place. Un, c'est de soumettre une lettre additionnelle, une correspondance additionnelle, qui le résultat serait que donc cette lettre serait publiée et cela éviterait ça vous permettrait d'être éligible dans la période de commentaires de 30 jours. Une autre méthode aussi serait d'ajouter une lettre additionnelle de soutien via avec une requête de changement. La personne au micro, ça veut dire que tous les membres de la communauté peuvent ajouter la période de commentaires. Le mécanisme de commentaires n'a pas date, ne comporte pas les attachements, dit Steve. Si vous voulez attacher une lettre, vous devez soit les deux mécanismes que j'ai mentionnés, un changement, une requête de changement ou une correspondance. Sur le site, il y a l'explication pour ce processus. Je voudrais retourner vers les questions préalables, dit Ross Weinstein, à propos des réponses publiées. Comment les CQ seront publiées? Nous allons voir quels sont les mécanismes disponibles. Merci de nous poser la question. Ray Fawcett, quel genre de correspondance utilisons-tu? Quelle est l'adresse pour la correspondance? Ross Weinstein, c'est l'adresse standard gtld@icann.org.customerservice. Ray Fawcett, oui. La seconde question, est-ce qu'il y aura des membres du panel différents ou est-ce que c'est une personne sur le panel, trois personnes sur le panel? J'aimerais bien avoir un peu un historique là-dessus. À ce sujet, pardon. Steve, il y a seulement un seul panel. En termes de panélistes, disons de personnes sur le panel, les attentes sont que ces personnes feront des révisions parallèles pour évaluer donc les candidatures en parallèle. Je ne l'aurais pas demandé d'ailleurs. Christine arrive au micro, elle va répondre. Christine Ouellet au micro. Oui, le IEU va assigner donc des experts avec de l'expérience dans les communautés donc spécifiques. Ils auront l'expertise dans ce qu'ils auront à évaluer. Il y aura donc des façons différentes, des panels différents, multiples. Ray Fawcett, oui, qu'il y ait plusieurs panélistes ou pas. Christine, non, ce n'est pas individuel. Ce sont des multiples de plusieurs personnes qui participeront aux évaluations dans chaque évaluation. Ray Fawcett, oui, donc encore une question qui n'est pas très. S'il y a plus d'une personne sur un panel, cela pourrait être une décision. S'il y a trois personnes, ça pourrait être une décision de deux contre un. Est-ce que cela sera publié? Christine Ouellet, oui, il y aura un résultat sur chaque. Le panel va présenter un résultat combiné à ICANN. Chaque panel va fournir un résultat à ICANN. Ce n'est pas qu'ils ont trois votes. Nous avons un résultat qui va en sortir, qui sera publié. C'est différent donc du processus d'objection. Christine, oui, cela suit. Cela suit les autres processus, c'est un peu similaire. Je sais que nous avons parlé beaucoup d'objections et les experts, les panels d'experts et ainsi de suite. Donc, c'est un peu, ce n'est pas similaire à cela. Je ne pense que c'est plus similaire aux panels d'évaluation. C'est comme nos autres panels auparavant. Par exemple, nos EEU ont fait cela aussi. Ils ont fait l'évaluation des noms géographiques. C'est un peu similaire à ce programme. Ray, oui, c'est très... ça nous aide beaucoup. Oui, il y aura un rapport qui sera donc publié au niveau du score, hein, qui sera utilisé. Donc, la rationnelle du score sera publiée aussi, sera publique pour que les gens puissent vérifier. Christine, oui, je pense que dans notre dernier webinaire, c'est une évaluation qui, avec des rapports CPE qui seront publiés, et publié avec les scores aussi qui seront expliqués.
Vonnestab, ma question est relative à la responsabilité. La responsabilité, c'est un des principes de base d'ICANN et pour une raison étrange, dont je me suis toujours plainte, cela ne fait pas partie des critères d'évaluation de la communauté dans le guide. Mais disons que, en fait, cela fait partie implicite du guide. Bien évidemment, la responsabilité est importante dans le contexte d'ICANN. Maintenant, pour ce qui est de du délignement des communautés, cela fait partie de l'organisation et à un point ou à un autre, il faut que quelqu'un soit responsable ou prenne la responsabilité. Maintenant, ma question est relative à la discussion qui sera publiée par le panel. Est-ce qu'elle en parlera? Parce que je crois que cela est important. La responsabilité, nous en avions parlé dans un autre projet dans lequel j'étais impliquée. Je crois qu'il est important d'en parler. Alors, est-ce que l'on peut s'attendre à ce que la responsabilité, la prise de responsabilité fasse partie de la conversation dans le contexte des priorités de la communauté? Et je ne parle pas de la candidature, mais des parties qui seront affectées par l'utilisation des nouveaux TLD, donc les utilisateurs finaux. Donc, si le candidat n'est pas responsable, qui est responsable? Je crois qu'il faut que quelqu'un soit responsable ou assume la responsabilité parce que c'est ce à quoi la communauté s'attend. Parce qu'en fait, les gens vont dire « oui, ICANN assume la responsabilité » et puis finalement, ICANN dit que non. Donc, Christine, nous avons trois mécanismes de responsabilité. Nous avons le médiateur, nous avons la reconsidération de demande et nous avons l'IRP. Donc, nous avons tous ces mécanismes de responsabilité. Nous continuons les évaluations et selon les critères du guide, nous avons externalisé ceci à un panel d'experts très compétents, très bien sélectionné. Nous avons tout le travail, a été effectué. Je suis contente d'entendre ce que vous avez à dire. J'apprécie votre commentaire. Werner, j'aimerais différencier la responsabilité d'ICANN et la responsabilité des utilisateurs de l'Internet qui s'attendent à ce que les ressources qui ont un impact sur eux soient contrôlées. Et donc, ICANN doit contrôler à qui ces ressources sont données, comment elles sont mises à disposition. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, question de quelqu'un qui est à distance. Est-ce que les qualifications et l'adhérence à un panel seront rendus publics avec la recommandation? Donc, les membres du panel seront-ils connus? Alors, les membres du panel qui feront le processus du CPE ont déjà été nommés. Ils ont fait l'objet d'un RFI, d'un processus RFI de sélection, et nous avons déjà fait part de cette information de manière publique. Nous allons passer à la partie des enchères, dit Russ. Je vais quand même poser ma question dès la nouvelle personne au micro. Est-ce que le panel prend la décision et, ou est-ce que c'est le conseil d'administration qui approuve la décision du panel? Christine, le panel fait sa recommandation et il y a rapport à ICANN. Merci. Alors, Russ au micro. Nous allons maintenant repasser au, nous allons passer aux enchères des nouveaux GTLD. Donc, je vais parler du statut de la capacité opérationnelle et ensuite, on passera à l'explication et nous ferons également une démonstration du système d'enchères que nous allons utiliser et nous ramènerons ceci à la présentation que j'avais faite lors du dernier webinaire. Alors, donc Power Auction est le gestionnaire des enchères qui va nous aider à la, qui va nous aider à la conception, au concept, au design et à tout ce qui est opérationnel. Le 1er novembre, nous avons publié les règles préliminaires de la vente aux enchères. Vous pouvez trouver ceci sur le microsite. Et le 7 novembre, nous avons organisé un webinaire focalisé sur la vente aux enchères. Et donc, la majorité du contenu de ma présentation viendra de ce webinaire. Et puis, j'espère qu'on pourra discuter un petit peu plus là-dessus. Nous avons eu un accord qui a été publié en mi-décembre. Enfin, nous devrions le publier mi-décembre. Nous pensons que la première vente aux enchères aura lieu au début du mois de mars 2014. Larry va vous présenter Power Auction. Larry au micro. Merci, Russ. Nous sommes un fournisseur de services spécialisé dans la conception des ventes aux enchères, des logiciels de vente aux enchères et de tout ce qui est services de vente aux enchères. Nous fonctionnons dans divers secteurs qui comprennent les secteurs des télécommunications. Cela signifie que nous vendons aux enchères des licences pour les services de téléphone portable. Nous avons également des clients dans le domaine de l'électricité, du gaz naturel, des diamants. Nous n'avons jamais fait les nouveaux GTLD, mais nous connaissons différents sujets et des sujets très innovants. Donc, récemment, Power Auction a conçu une vente aux enchères pour l'énergie éolienne offshore et nous avons effectué nos deux premières ventes aux enchères cette année. Notre dernière vente aux enchères la plus récente et la plus importante, c'était la vente aux enchères des dividendes numériques australiens avec 2 milliards de dollars de revenus. Nous avons également conçu la vente aux enchères canadiennes de Spectrum 700 MHz en janvier 2014. Au total, nous avons fait plus de 150 ventes aux enchères de très haut niveau sur notre plateforme depuis 2001. Je pense que nous sommes assez spécifiques, nous sommes assez uniques, puisque nous avons effectué, nous avons travaillé sur les 6 continents et cette année, nous avons commencé dans le domaine, un projet dans le domaine des diamants au Botswana. Nous respectons les normes gouvernementales de stabilité et de sécurité. Nos ventes aux enchères sont en fait les mêmes dans les différents continents grâce à des serveurs séparés. Donc en fait, ce que je vous décris là, c'est que nous avons de l'expérience. Si vous avez des soucis des préoccupations par rapport au lancement de la vente aux enchères au niveau interne, eh bien, ce n'est pas la peine. Je peux vous donner davantage de détails si vous le souhaitez. Merci, Larry.
Nous allons dire à Swainstein parler du processus et de la chronologie. Les critères d'éligibilité pour les enchères sont très similaires du CPE. Tout cela doit passer une évaluation, un suivi du conseil du GAC et qu'il n'y ait pas d'objection ou pas d'objection en attente ou de changement de requête de changement. Ils ne peuvent pas être qualifiés à haut risque. Et aussi doit être éligible pour être délégué et avoir reçu leur évaluation, leur chemin de délégation alterne de l'ICANN. Si vous ne savez pas ce dont je parle, vous devriez aller revoir les annonces qui ont été faites sur le sujet auparavant. Cela commence avec les évaluations que feront l'ICANN, nous déterminons donc l'éligibilité. Il y a une notice une notice d'intention d'enchère qui va avec chaque ensemble de contentions. Les candidats qualifiés pourront délimiter leur bidder, donc les gens qui pourront faire leur offre, les offrants. Cela ne veut pas dire que la personne qui va faire l'offre sera une entité qui sera définie, qui sera la plus riche ou qui sera la personne qui sera l'entité qui sera la source des fonds. L'offrant et l'enchérisseur, et le candidat devront exécuter le contrat de l'enchérisseur et auront 30 jours après la notice d'intention des enchères. ICANN ensuite va revoir tous les matériaux et commencera à mettre en place un compte d'escrow et un compte enchère. Après une période de 2 semaines, nous pourrons mettre sur le calendrier une date pour les enchères. Et avec donc tous les participants qui participeront à chaque événement d'enchères. Les candidats seront donc seront annoncés. Nous pourrons donc transiter entre le système ICANN et le système d'enchères. Ensuite, nous aurons donc, encore une fois que cette transition sera faite entre les deux systèmes, nous fournirons des instructions pour faire des dépôts et d'argent et nous donnerons donc les informations sur où les fonds doivent être déposés et qui seront les personnes du côté de l'enchérisseur qui seront autorisées à participer à l'enchère elle-même. Une fois que la date butoir du dépôt d'argent est arrivée, nous aurons 7 jours avant les enchères et il pourra y avoir une discussion, il n'y aura donc plus de discussion entre les parties prenantes. Ce sera une période de blackout et des retraits ne pourront plus être faits durant cette période. Ensuite, le jour avant les enchères, et cela pour les enchérisseurs qui sont désignés et autorisés, ils auront donc là l'opportunité de pratiquer un peu, de faire un peu d'apprentissage. Ils auront une journée pour faire un peu de formation sur le système que nous mettrons en place. Donc, à travers ce processus, nous avons donc une chronologie. Des notices seront envoyées, les formulaires d'enchérisseurs qui doivent retourner vers l'ICANN dans les 30 jours. C'est aussi la date butoir pour une requête de délai. L'enchère sera donc mise sur le. Ce sera planifié 2 semaines plus tard et le candidat Le candidat sera donc transféré dans le système en chair, ce qu'on appelle power auction en chair. Il y aura donc une session de pratique d'apprentissage en chair pendant une journée. Et les dépôts, les intéressés qui n'auront pas gain de cause retrouveront donc leur dépôt d'argent. Et les paiements des gagnants sont dus dans les 20 jours après les enchères. Encore, les dépôts doivent être faits au moins 7 jours avant les enchères. Les dépôts ne peuvent pas être modifiés. Une fois que la date butoir est passée, nous aurons donc un compte escrow dans une banque commerciale importante aux États-Unis. Le dépôt doit être fait par transfert en dollars US. Le dépôt des enchères va déterminer votre limite maximum des enchères. Donc chaque personne aura sa limite, une limite. La limite dans les enchères sera mise en place 10 fois le montant du dépôt, de l'argent déposé. Les limites seront mises en place pour chaque application, pour chaque candidature. Je vais passer le micro à Larry. Larry va nous parler de la mise en place des enchères. Je suis donc Larry au micro. Laurence Ansuber, je suis un professeur d'économie. Comme vous le voyez sur cette diapositive, faites attention parce que la procédure de la pendule, disons, ascendante sera démontrée sur cette diapo. Donc, encore une fois, c'est un exemple d'un ensemble de contentions avec 5 enchérisseurs et chaque tour des enchères, le directeur de l'enchère va annoncer un prix. Il y aura donc de prix. Le prix de commencement, par exemple, au premier tour, c'est $1, comme on le montre sur la diapositive. Et ensuite, on annoncera le deuxième. Et là, bien sûr, le tour va commencer. Le tour d'enchères va commencer. Ce qu'on voit ici durant les tours, chaque enchérisseur va indiquer pour voir s'ils sont là, s'ils veulent s'engager vis-à-vis de deuxième prix ou alors s'ils ont atteint leur limite de leur enchère. Donc, vous voyez ici, nous avons 5 enchérisseurs. Ils vont aller au deuxième tour et le deuxième tour sera annoncé après le premier tour à tous ces enchérisseurs pour savoir qu'ils sont encore 5 à poursuivre le processus. Donc, nous allons au deuxième tour. Un prix est annoncé pour le deuxième tour et les enchérisseurs vont soumettre encore une fois ce qu'ils veulent faire pour savoir s'ils sont encore en contention pour le troisième tour ou pour nous dire s'ils ont atteint leur maximum. Par exemple, un exemple d'enchérissement qui a été fait au deuxième tour. Vous voyez ici que cet enchérisseur numéro A a atteint son maximum à la moyenne, au point milieu entre le tour numéro 2 et le troisième tour, alors que les 4 autres sont restés dans les enchères. Donc, à la fin du deuxième tour, il nous reste 4 enchérisseurs. Et voilà, ceci est donc annoncé à tous les enchérisseurs. Nous arrivons donc au troisième tour. Et donc, un prix est annoncé pour le troisième tour et le tour commence et les enchères arrive. Et là, ce que nous avons ici, c'est qu'il reste 2 enchérisseurs qui sont arrivés avec leurs limites, comme vous voyez sur l'exemple. Ce que vous voyez donc, l'enchérisseur B s'est retiré au tout début du troisième tour, alors que l'enchérisseur C est resté presque jusqu'à la fin du deuxième tour. Et ce que nous avons à la fin du troisième tour, c'est qu'il nous reste 2 enchérisseurs. Et alors que le troisième tour s'arrête, c'est annoncé donc aux enchérisseurs et on arrive au quatrième tour. Et donc la personne qui dirige les enchères, le quatrième tour commence et les enchères commencent. Et vous voyez qu'il y a donc tel enchérisseur qui s'arrête à peu près au milieu du quatrième tour, alors que l'enchérisseur 1 est resté jusque presque à la fin du quatrième tour. Donc à la fin du quatrième tour, il ne nous reste qu'un enchérisseur qui est donc le gagnant. Et donc la chose qui est dire, le principe de cette enchère, c'est que c'est une sélection du deuxième prix. Non, c'est l'enchère du deuxième prix. Le prix qui va être payé par le gagnant, c'est pas le prix maximum qu'ils étaient prêts à payer. Mais il faut donc attendre que l'avant-dernier enchérisseur se retire. Vous voyez que l'entité qui gagne l'enchère paie le prix quand le dernier enchérisseur, l'enchérisseur D, par exemple ici, se retire, OK? Voilà, donc c'est un petit peu en désordre sur l'écran devant vous, mais en général, dans les grandes lignes, il y a deux sortes d'enchères. Les enchères, c'est assez facile, c'est un système facile dans le processus ascendant. Il y a toujours un premier enchère et on continue. On veut toujours continuer à enchérir jusqu'au prochain tour et cela vous garantit de continuer au prochain tour et ne pas être éliminé. Donc, et il y a aussi un genre d'enchère, l'enchère de sortie. Vous avez atteint donc le maximum et vous indiquez le maximum que vous pouvez enchérir, sur lequel vous pouvez enchérir. Vous continuez jusqu'à ce prix-là. Mais si quelqu'un a enchéri plus que vous, vous serez éliminé. Il y a un troisième sorte de façon d'enchérir, mais c'est la troisième sorte d'enchérissage. L'offre proxy. Vous pouvez continuer. Vous pouvez entrer donc un prix sur lequel vous continuez à enchérir. Vous pouvez mettre votre prix final au début de l'enchère. Et cela restera donc dans le système jusqu'à ce que vous laissiez ce prix dans le système. Vous pouvez donc le modifier jusqu'à ce que vous arriviez à un certain point où ce prix est atteint. La dernière chose à dire, c'est que ces trois sortes d'offres peuvent devenir les offres gagnantes. Si vous êtes la dernière offre, même si vous êtes une offre de sortie, ce qu'on appelle une sortie, exit bid, vous pouvez sortir parce que même si le dernier enchérisseur sort de ce tour, le prochain enchérisseur gagnant peut aussi sortir. Donc la prochaine offre proxy pourrait gagner. En termes de processus, l'autre chose indiquée, c'est la chronologie, la durée de temps. Avant le début de l'enchère, on annonce donc le délai du premier rang, du premier tour. Et donc quand le premier tour commence, on s'attend à ce que le premier tour, disons, soit de 30 minutes. Donc, les enchérisseurs soumettent leur offre durant ce tour et finalement, le tour se termine, se ferme. À ce moment-là, il y aura donc une pause et on pense que cette pause soit de 10 minutes. Tout d'abord, les résultats du premier tour seront publiés et ensuite, le prix pour le prochain tour sera annoncé. Une chose importante à savoir ou à noter sur ce concept, qu'il n'y a rien de créé pour. On ne peut pas enchérir au début ou tard dans le plus tard dans le tour. Comme vous voyez, votre opposant ne va pas savoir quelle est votre enchère, quelle est votre offre jusqu'à la fin du tour. Donc ce n'est pas grave si vous faites votre offre à la première minute du premier tour ou à la dernière minute du dernier tour, parce que cela ne sera pas... les autres enchérisseurs ne le sauront pas jusqu'au deuxième tour. Donc nous passons donc au deuxième tour. Nous pensons que le deuxième tour et tous les autres tours dureront 10 minutes. Encore une fois, les enchérisseurs peuvent soumettre leur offre durant n'importe quand durant ce tour, peuvent aussi réviser, revoir leur offre. Le protocole est que, quelle que soit l'offre qui est dans le système, à la fin du tour sera l'offre qui sera considérée. À la fin du tour, le processus recommence, les résultats seront donc publiés, les prix seront annoncés et nous irons autant de tours qu'il sera nécessaire.
Alors, les deux diapositives suivantes sont très faciles, surtout celle-ci. Les exigences de système ne sont pas très exotiques. Ce qu'il vous faut, il faut un PC ou un Mac avec une bonne connexion. Les navigateurs certifiés sont les nouvelles versions de Internet Explorer, de Chrome ou de Firefox. Il est fortement recommandé que l'enchérisseur ait une connectivité redondante, donc par exemple une tablette avec des données cellulaires ou un portable avec une carte 3G. Vous pouvez également utiliser comme solution de secours un téléphone, un smartphone. Maintenant, assurez-vous que votre vision est suffisamment adéquate, ainsi que votre dextérité. Mais cela fonctionne avec les smartphones. Et ensuite, l'enchérisseur peut avoir une autre personne autorisée dans un autre lieu qui peut lui permettre d'avoir une option supplémentaire en cas de problème. Et puis, il faut qu'il y ait également un moyen de soumettre votre offre par fax. Cela également représente une option de secours. Et pour ce qui est de redondance de la connectivité, on peut utiliser le site d'offres par procuration. Parce que, par exemple, si vous offrez avec un tour d'avance, si vous n'avez pas votre connexion Internet, si vous perdez votre connexion Internet, les offres sont déjà rendues. Et de toute façon, vous pouvez toujours changer votre offre si vous ne perdez pas votre connexion. Alors, pour ce qui est de notre formation, nous prenons ceci très au sérieux. Il y aura toujours une vente aux enchères d'entraînement. La participation est optionnelle, mais elle est fortement recommandée pour les nouveaux enchérisseurs. C'est en fait un exercice de formation, d'apprentissage. Il aura lieu un jour avant la vente aux enchères. Au début du processus, il est tout à fait possible que nous ayons davantage de moments de formation parce que tout le monde va être débutant. Il y aura également des manuels d'utilisateurs qui seront publiés. Il y aura un système de messagerie au sein du logiciel de vente aux enchères. Et il y aura également une assistance téléphonique qui sera disponible pendant les essais et pendant les ventes aux enchères réelles. Alors maintenant, nous allons passer à la démonstration du système de la vente aux enchères. Alors nous allons commencer par le tour 1. Donc la première chose que vous voyez, c'est donc un écran d'enregistrement, d'ouverture de session standard. Donc vous ouvrez votre session. Vous ouvrez votre session et le premier écran que vous voyez, c'est donc l'écran qui vous donne les informations relatives aux chaînes sur lesquelles vous allez placer vos offres. Donc, par exemple, vous avez point exemple, vous avez un enchérisseur qui a des demandes dans quatre niveaux différents. Écran suivant. Ce que vous voyez immédiatement, c'est donc le calendrier avec le premier round de 10 minutes, le premier tour pardon, de 10 minutes, ensuite les pauses. Alors passons maintenant à l'écran des enchères. Ce que vous voyez maintenant, donc, c'est l'écran des enchères avec les différents ensembles conflictuels. Et nous allons maintenant vous montrer la façon la plus facile de faire vos offres. Donc, si vous voulez continuer pour toutes ces chaînes, vous allez déplacer votre curseur sur le chiffre surligné qui représente le prix de la fin du tour et vous cliquez dessus. Lorsque vous avez cliqué dessus, l'offre continue est enregistrée. Vous voyez qu'elle est passée de rouge à vert parce que vous avez maintenant la garantie de ne pas être éliminé pour cette chaîne et pour ce tour. Donc, l'enchérisseur va maintenant passer à la deuxième chaîne, à la troisième et à la quatrième. Ensuite, l'enchérisseur peut passer à l'écran de confirmation des offres que vous voyez là et il est fortement recommandé de l'imprimer. Mais pour répéter le protocole, admettons que vous regardiez l'écran et que vous vous rendiez compte que vous avez placé la mauvaise offre. Vous pouvez toujours revenir à l'écran pour changer votre offre puisque rien n'est terminé avant la fin du tour. Ensuite, vous passez à l'écran suivant. Vous voyez l'écran de vos résultats et vous avez ici votre statut. Est-ce que vous faites toujours vos offres? Combien de tours est-ce que vous avez gagné et combien d'enchérisseurs sont impliqués dans la même offre que vous ou dans la même enchère? Alors, maintenant, tour numéro 2. Vous avez une deuxième manière de faire vos offres. Il est tout à fait possible que la première chaîne que l'enchérisseur voulait, il la veuille toujours. Donc, il clique dessus parce qu'il veut continuer. Maintenant, s'il veut arrêter, alors tout d'abord, si vous regardez à droite de l'écran, vous voyez ce qui se passe pour la deuxième application. C'est donc le chiffre le plus élevé qu'ils aient offert. Ce qu'ils peuvent faire, c'est cliquer sur « Changer » ou « Edit bid », donc « Changer l'offre ». Et donc, ce chiffre va apparaître dans une boîte de texte. Et il peut maintenant rentrer dans cette boîte. Maintenant, il y a un problème. Parce que l'enchérisseur a mis 1000 $ d'acompte, cela veut dire qu'il est limité à 1 million et en fait, il a tapé plus que ça. Donc, bien sûr, il y a vérification des offres. À ce moment-là, vous devez changer ce que vous avez tapé. Donc, maintenant, je suis en dessous de la limite. Vous pouvez sauvegarder, donc. Comme vous le voyez, le système n'est pas passé de rouge à vert parce que c'est une offre de sortie. Elle peut toujours gagner, mais s'il y a quelqu'un qui offre plus de manière inévitable, vous allez être éliminé de la vente. L'enchérisseur peut maintenant passer à la troisième et donc 985 000, ce qui apparaît ici. Alors, n'allez pas plus loin. Vous pouvez simplement voir que pour la quatrième application, l'enchérisseur non seulement a placé une offre continue, mais il a également fait ceci par procuration. Alors, peut-être qu'il a pris en considération que 1 138 000 correspondait à la limite. Et donc là, on est passé de rouge à vert parce que c'est la fin du prix du tour et donc l'enchérisseur ne sera pas éliminé. Ensuite, après avoir terminé ceci, vous avez confirmation de votre offre. Encore une fois, nous vous recommandons de l'imprimer. Et après la fin du tour, vous voyez un écran, donc mes résultats, my results pour le deuxième tour. Et vous voyez que la deuxième chaîne où vous aviez une offre de sortie, vous n'avez pas gagné. Et la dernière où vous aviez aussi une offre de sortie, finalement, vous avez gagné parce que vos opposants, les personnes qui offraient également, ont offert moins que vous. Alors, à la fin de la vente, vous allez voir sur votre écran de résultat le résultat final. Donc, dans cet exemple, l'enchérisseur a gagné pour l'application 3 et 4. Il a perdu pour les applications 1 et 2. Et puis, vous avez aussi votre cash flow, donc en termes de votre paiement final. Alors, dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est le système de messagerie. Voilà comment la communication peut se produire avec la personne qui est responsable de la vente aux enchères. Il y a deux types de messages dans le système. Il y a les messages non contrôlés à tous, et puis il y a en fait les messages individuels et les messages publics, communs. Donc vous avez sur cet écran un exemple de message public avec le message d'accueil, par exemple, que vous voyez au début de la vente. Et puis, si vous avez besoin d'aide, vous allez lancer une conversation bilatérale uniquement avec la personne responsable des enchères. Donc, par exemple, est-ce que la limite de mon offre sera accrue, etc. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir réponse. Et voilà donc pour la démonstration. Donc, je ne sais pas s'il reste autre chose à dire, si ce n'est de dire que si vous avez des questions détaillées sur la façon dont les choses fonctionnent, je suis disponible jusqu'à mercredi et je suis prêt à répondre aux questions des personnes qui ne se présenteront pas aujourd'hui pour en poser. Merci Larry, dit Russ. Donc avant de passer aux questions, je vais déjà représenter les sujets dont nous allons parler et on peut tout à fait avoir une conversation sur chacun des sujets et ensuite il y aura une discussion plus ouverte à la fin. Alors, diapositive de transition s'il vous plaît. Donc, ceci est similaire à ce que vous avez vu dans les webinaires. Donc, notre approche actuelle en termes de durée des tours, c'est que le premier tour durera 30 minutes, pardon, avec une pause de 10 minutes. Et ensuite, les tours 2 et les autres dureront 10 minutes. En fait, je ne voulais pas changer les critères entre la présentation par webinaire et maintenant. Je connais les commentaires qui ont été faits. Nous les prendrons en considération, mais nous finaliserons nos diffusions ensuite. Maintenant, je voudrais savoir s'il y a un commentaire ou une question sur ce sujet. Oui, dit la personne au micro. Quelle est la formule pour ce qui est de la limite supérieure des tours? Donc, d'une manière générale, dit Lawrence Osubel, la durée sera basée sur la demande perçue pour cet ensemble conflictuel. Et bien sûr, selon le nombre d'offrants qui existent toujours, on va passer à un certain nombre de tours, bien sûr, mais en même temps, il serait mieux que tout puisse être terminé en une seule journée. Donc, suivant certains indices, par exemple le nombre de personnes qui sont intéressées, ainsi que d'autres informations externes sur le niveau de demande, nous établirons le prix de la fin du tour. Et de la même façon, ceci sera déterminé pour les tours suivants. Est-il possible, dit la personne au micro, de publier une formule? Est-il possible de savoir comment vous allez prendre cette décision par rapport à la formule? Est-ce que c'est uniquement basé sur la demande? Parce que si c'est le cas, moi j'aimerais bien connaître vos données de demande, parce que c'est un petit peu arbitraire.
Non, pardon, Lawrence, c'est comme ça que nous avons procédé durant les autres enchères. Cela a bien marché, donc nous avons trouvé aussi que si l'on suit des formules strictes, cela ne facilite pas les choses. S'il y a des gens qui vont faire des offres pendant 30 tours, donc la personne au micro, vous n'avez pas de formule, vous avez juste les chiffres. Lawrence dit, c'est ce que les professeurs font. Oui, au micro dans l'audience, oui. Donc, en rapport avec les résultats de chaque tour, est-ce que je peux assumer que c'est une enchère silencieuse? Vous allez annoncer qu'il y a, par exemple, trois enchérisseurs qui restent à la fin de chaque tour. Vous allez seulement annoncer qui s'est retiré, qui est parti. Aussi, nous allons... Réponse du panel, oui. Donc, le personne au micro, oui. J'assume que toutes ces redondances ont des séquences de login. Donc, si mon ordinateur, si ma connexion est mauvaise ici, je n'ai plus de connexion, comment est-ce que je vais pouvoir rentrer dans le système? Il y aura deux personnes qui sont autorisées à faire une offre, par exemple, moi et quelqu'un d'autre. Et que moi, si mon système ne fonctionne, si je ne suis plus connectée, est-ce que j'aurai la possibilité d'avoir de plusieurs logins? Donc, sinon, les 10 minutes deviennent un problème. Est-ce qu'on pourrait peut-être étendre cette durée? Laurence, le protocole que nous utilisons, si vous faites un nouveau login et vous utilisez le même identifiant, le même code passe, le passe, donc cela annule l'ancien mot de passe. Donc il faut vous serez autorisé, vous aurez deux personnes autorisées avec des identifiants et des mots de passe. Personne au micro, oui. Donc durant l'autorisation, processus de l'enchère et la correspondance entre les personnes, les enchérisseurs. Nous allons nous attendre à ce que vous soyez, vous répondiez rapidement. Nous espérons ne pas avoir à attendre une réponse, que votre personnel répond, et ainsi de suite, si c'est le cas. Lawrence, oui, nous avons l'expérience d'avoir beaucoup d'enchérisseurs pour ce genre d'enchères. Personne à micro, oui, j'ai des questions supplémentaires en référence à la préparation des enchères. Je suppose que vous voulez que je garde ces questions pour plus tard, après notre discussion sur le processus. Le panel, oui, merci. Ross Weinstein, oui, ce serait bien. Ken, merci. Pourquoi, Werner Staub au micro, pourquoi l'attente est de 10 minutes et pas 2 semaines? Par exemple, les gens ont attendu 8 ans pour une enchère de telle ampleur et pour perdre en 2 minutes. Donc, cette enchère n'est pas censée être maximisante au niveau revenu. Si l'enchère, vous voulez certainement maximiser les revenus, ce n'est pas le cas. Pourquoi ne laissez-vous donc pas les gens de revenir après durant la pause, parler avec leur unité constitutive et que vous puissiez publier donc les résultats du premier tour et avoir le temps, donner le temps aux gens de prendre des mesures. Ross, comme vous savez, les ensembles de contention, les droits d'ensemble de contention sont publics. ils auraient des limites établies, des limites d'offres établies. Vous avez jusqu'à 60 jours avant les enchères, avant le dépôt qui sera fait donc pour votre offre. Nous focalisons sur l'utilisation de cette période de temps pour aider les gens à se préparer, les candidats à se préparer pour les enchères. Encore une fois, le dépôt va déterminer la limite de l'offre. Donc, c'est notre rationnel derrière cela. Avoir 200 ensembles de contention, nous devons donc faire les choses de façon expéditive. La personne de micro, oui, cela m'inquiète. Werner, oui, cela m'inquiète. Alors, pour nous dire que nous ne voulons pas être pressés à travers les enchères, les gens qui attendent ça depuis longtemps, sans parler des externalités, disons, du processus, il y aura un problème d'échec de l'ICANN. Vous savez, je vais dire, Lawrence, oui, je pense que c'est le manuel à mis en place. Ce sont les directives qui sont mises en place dans le manuel. Et ce sont les directives qui doivent être suivies par le public. Ross, est-ce qu'il y a un commentaire sur ce sujet? Ross Weinstein, je vais aller vers le prochain sujet. Nous parlons des événements du programme de la chronologie des enchères. J'ai ajusté un peu le délai quand la seule chose que j'ai changée sur ce diapo, c'est je suis passée de 1800 à, je pense qu'on parle de temps, donc 1800 à 1600. Les dépôts seront faits donc une semaine auparavant. Les enchères se dérouleront 3 semaines après la date d'annonce. Et après 3 semaines après que le dépôt soit fait, donc. Et après 60 jours après la notice d'enchère. Donc, ce dont on a parlé récemment, c'est de donner la possibilité à l'enchérisseur de changer la limite, mais nous espérons que la communauté va nous aider à comprendre est-ce que nous avons le bon équilibre de chiffres au niveau d'un tel événement pour un tel enchérisseur ou est-ce qu'on doit soumettre d'autres chiffres. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce sujet? 18 heures. Est-ce que c'est 18 heures ou 16 heures? C'est une situation, la personne au micro, je ne sais pas si ma question s'est appropriée, mais les informations que nous avons du rapport GS, et nous avons un peu une idée de combien de chaînes vont être proposées, bloquées pour cela, pour tel ou tel TLD, avant que nous faisions une offre. Ross, oui, les critères d'éligibilité. Vous devez être éligible pour le processus alterne. Si ce n'est pas le cas, nous attendrons que l'évaluation de collision soit faite et que l'évaluation soit faite proprement. L'analyse d'évaluation soit faite de façon proprement. Ken Stubb, oui, merci. Pour faire un suivi. Donc, encore une fois, il serait important d'avoir le rapport de GS. Par exemple, je viens de regarder la liste. Il y a plus de 100 000 chaînes qui ont été bloquées. Telles mesures pourraient avoir un impact sur l'évaluation. Ce que nous savons, c'est qu'il y a 100 000 et quelques chaînes qui sont bloquées. Nous ne savons pas quel est le processus qui va être suivi. Ce serait peut-être bon de déterminer cela avant le début des enchères. Ross au micro. Oui, je pense que nous pensions que le niveau d'information que nous aurons à ce moment-là, toute l'information publique qui sera disponible, cela nous permettra de prendre une décision d'évaluation. Je vous entends. La personne au micro, oui, il y a des modèles différents, le modèle fermé, le modèle ouvert. L'impact serait peut-être plus important pour tel ou tel candidat. Ross, merci. Deux personnes à distance. Christina Rosette, si une chaîne qui n'est pas en contention ou si la chaîne de contention est dans les 25 chaînes qui sont inéligibles, est-ce que cette inéligibilité pour la délégation de alterne, excusez-moi, Ross, c'est ce que je viens juste de répondre de la part de une autre question de Greg Fawcett. Les réglementations préliminaires, où est-ce que l'on peut soumettre des commentaires à ce sujet et comment est-ce que ces règlements préliminaires deviennent des règlements finaux? Voir Swinson, où il y a un mécanisme de suivi à travers le service client et selon comment les commentaires arrivent vers ICANN ou le service cité, nous pouvons publier cela. Mon objectif, ce serait d'utiliser un format de discussion au lieu d'un processus de commentaires publics, des séances comme celle-ci, pour partager le suivi pour voir s'il y a un consensus ou non dans la communauté. Mais nous sommes bien sûr ouverts là-dessus. L'idée, c'est de finaliser ces règlements d'ici les deux semaines à venir et trouver s'il y avait des différences avec les interprétations qui sont dans le manuel. La personne au micro, est-ce qu'on peut parler des problèmes de délai de temps? Donc, des problèmes de chronologie, pardon. Des questions est-ce qu'on peut parler de questions de chronologie? De délai attitré ou... la personne donc au micro, je voudrais m'assurer que nous avons une opportunité suffisante sur votre point de vue de fournir des commentaires durant la période attitrée. Il devrait y avoir un mécanisme mis en place pour les gens qui vont participer dans ces enchères pour qu'ils puissent fournir des informations. Par exemple, vous dites que vous allez peut-être changer les délais ou la chronologie des tours des enchères. Certains seront plus longs que d'autres. Une fois que vous avez une proposition finale, je pense que vous devriez publier cela pour qu'il y ait une période de commentaires. Et encore, de façon plus importante, vous dites qu'il y a un contrat qui va arriver vers les candidats. Si nous suivons l'historique dans les contrats de la CAN, nous savons que nous avons besoin d'avoir une opportunité pour réviser et négocier ces contrats aussi. Donc, quand on parle de chronologie, il faut qu'on ait un peu l'opportunité de renégocier ces contrats ou qu'il y ait une période de commentaires, quelle que soit la méthode que vous voulez employer. Ross Weinstein, oui, nous voyons ce contrat comme un peu un contrat d'utilisateur, un peu comme les contrats de logiciels, comme nous avons mis dans le manuel pour voir comment les contentions sont résolues. Il faut un petit peu suivre les règlements des enchères. Oui, je comprends, j'ai entendu, nous prendrons ça en considération. Merci. Au micro, Gerardo. Je vais écouter vos commentaires au sujet des 5 chaînes par candidat. Je ne pense pas que c'est un processus correct pour continuer. Les grands candidats vont mener la mesure dans l'ensemble pendant les enchères. Je voulais juste faire un commentaire. Je disais ces 5 chaînes par candidat. Donc, un candidat qui a 100 chaînes, il pourra mener la mesure pour tout le processus. Donc, il faut prendre en compte les intérêts de chaque candidat. Ross, est-ce que vous avez une recommandation alterne? Autre recommandation, pardon, et la personne au micro, oui, je vais voir, je vais y penser.
Je Alors, autre dispositif, diapositive, le processus de report. Pour ce qui est du report, après un report de délai, au bout de 90 jours, les demandes de report doivent être soumises par tous les contacts primaires des candidats, par le portail. Tous les membres de l'ensemble conflictuel doivent soumettre leurs propres demandes et tous les membres de l'ensemble conflictuel doivent se mettre d'accord sur le délai. Le raisonnement, c'est que il n'y a pas une entité qui va en fait arrêter tout le processus. La base de la demande est de bonne foi. Donc, toutes les parties doivent être impliquées. C'est un petit peu comme ça que nous pensons les choses. Je ne vois pas d'autres questions sur ce sujet. Donc, on va passer aux questions-réponses d'ordre général. Donc, n'hésitez pas à venir au micro si vous avez des questions d'ordre général. Donc, Werner Staub, encore une fois, au micro. J'ai pensé beaucoup à toutes les implications de ce système. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la conception est basée sur la puissance. En fait, tout est basé sur les personnes qui peuvent lever la plus grande partie de capitaux de manière agressive et qui prévaut. Et je pense que ce n'est pas le bon moyen de traiter le DNS. Tout type d'influence doit être pris en considération. Donc, si par exemple il y a énormément de puissance qui est accumulée autour de ce sujet, la communauté va vouloir se défendre. Il y a beaucoup de communautés qui pourront le faire. Actuellement, on leur dit de s'exprimer, mais en fait, ce que nous avons, c'est un processus qui donne une grande partie du DNS aux personnes dont le modèle de fonctionnement est basé sur une attitude guerrière. Merci pour ce commentaire, Diros. Ceci étant, j'aimerais conclure la session. Merci d'avoir participé.